Chapitre 52. Des lampes de garage étaient suspendues, un peu partout, aux poutres métalliques de la cave. Leurs fils électriques pendant en dessous, comme autant de lianes synthétiques. Tout était savamment organisé. Tout d'abord la table, en inox, légèrement bombée pour repousser les fluides vers les bords, dans les rigoles inclinées jusqu'à la bonde. Ouverte sur un seau à peinture, vide. Un chariot en fer sur roulette, juste à côté, parfaitement nettoyé. Puis deux établis, avec tout le matériel du parfait petit bricoleur, du petit chirurgien amateur, du gynécologue méticuleux, du torsionnaire professionnel. Venait ensuite une longue table, en acier, recouverte d'une couche de polyéthylène, zébré des cicatrices de tous les coups de hachoir, scie à viande, couteau à désosser, et même de la tronçonneuse qu'on pouvait apercevoir juste à côté, bien rangés les uns à côté des autres, non loin de barils de désinfectants, d'eau de javel et autres produits nettoyants. Pour finir, un immense poêle occupait le dernier quart de la pièce, jouxtant un tas de charbon, sous la rampe, près de la trappe pour le remplissage. Un poêle avec une ouverture en deux battants, tels des lèvres charnues, prêtes à engloutir tout ce qu'on leur fournerait en guise d'offrande. Des chaînes tremblaient le long des murs, au passage des enquêteurs, scellées dans la pierre et se terminant par des bracelets de cuir. Il y en avait de toutes les tailles, larges pour des adultes corpulents, fins pour des poignets minuscules. Combien d'êtres humains étaient passés par cet endroit? Combien de vies avaient pris fin dans cet enfer au cours des 30 dernières années? Ludivine déambulait, assommée par l'effroi. Elle vit les stries dans le plastique de la table à découper, des centaines, les unes sur les autres, témoins d'heures d'efforts à démembrer des corps pour mieux les brûler ensuite. Certaines étaient encore rosâtres, malgré toute la sueur déployée à les laver.
Ils n'en étaient pas à leur coup d'essai,
commenta sombrement Seignon. Dieter Ferry, probablement, fit Apricorn d'une voix blanche. On dirait que ça n'a pas servi depuis plusieurs mois. Où toute la communauté, envisagea Ludivine, en découvrant une soupière et plusieurs plats à cuisiner, rangés près de la table à découper. Jusqu'à quel point leur liberté vicieuse avait-elle dérapé? Jusqu'à quels extrêmes? Quelle famille terrifiante et abominable était-il devenu sous le joug de Dieter Ferry? Aucun tabou, tous les droits, aucune perversité car toute envie devenait légitime à leurs yeux, absolument n'importe laquelle. Il suffisait de désirer, de vouloir pour essayer, pour goûter simplement. Et Ferry cautionnait, car si un être humain voulait, c'était donc qu'il pouvait. Jusqu'où avaient-ils été? Tous ensemble. Ludivine en avait assez vu. Elle remonta et sortit respirer. Les hommes du GIGN terminaient d'inspecter chaque parcelle du terrain, de ce sanctuaire du mal. Elle interpella deux militaires qui retournaient vers les camionnettes. Des traces de vie dans les bâtiments?
À part chez le type qu'on a appréhendé, non, ce n'est plus habité depuis pas mal de temps. Plusieurs mois sûrement.
Apricorn apparut à son tour, le téléphone à l'oreille. Il lançait un mandat d'arrêt au nom de Bruce-Saint. Ludivine aperçut trois gendarmes ressortir d'une cabane, un peu à l'écart du hameau. Ils semblaient accablés. Elle marcha jusqu'à la petite bicoque de bois et tira sur la porte qui grinça. L'intérieur était sombre. Une table au centre. Quelques flacons de produits. Des bacs. Avec des ustensiles. Puis, elle les vit. Des dizaines de bouches, des centaines peut-être. Tout croc dehors. Des gueules de mammifères que Ludivine ne tarda pas à identifier comme des chiens. Il y en avait partout, du sol au plafond. Les trophées d'une traque perpétuelle, cruelle. Ses yeux scrutèrent les étagères. Il y avait tout le nécessaire pour vider les animaux, pour les préparer après la chasse. Un carton rongé par l'humidité attira son attention. Il était plein de petites mandibules, de crânes d'oiseaux, dont certains étaient tachés de peinture. L'ensemble était poussiéreux, ancien. Ludivine songea à des jouets pour enfants, des jouets morbides. Toute cette pièce ressemblait à une copie plus convenable du sous-sol, un stade intermédiaire. Alors une idée terrible vint à la jeune femme. C'était un rite de passage, une étape transitoire pour les mômes du hameau. C'était ici qu'ils grandissaient, pour se préparer à devenir de parfaits sociopathes en puissance. C'était ici qu'ils étaient initiés à la torture animale, après avoir appris l'art de la chasse, puis à l'appel du sang, à la violence des tripes. C'était dans cette cabane qu'ils découvraient un monde insoupçonné de cruauté, que se façonnait une part de leur fantasme, entourée d'adultes dégénérés, sadiques et perfides. Victor Mag et Cyril Capucin n'avaient pas été recrutés par Gert Broussin. Ils avaient bel et bien grandi ici. Cela ne faisait plus l'ombre d'un doute. Sous d'autres noms que ceux de leurs géniteurs, pour brouiller les pistes. Ludivine savait qu'il ne tarderait pas à établir que Mag et Capucin étaient les noms de leur mère. Des femmes de passage, des junkies disparues. Peu importait, du moment qu'elles permettaient au clan de Dieter Ferry d'assurer sa descendance. La gendarme retourna sur ses pas, d'une démarche lente, accablée par le poids de tout ce qu'elle imaginait. Seignon fonça sur elle dès qu'il la vit.
« Magali vient d'obtenir une autre adresse pour Broussin. C'est le service des impôts qu'il avait. Tu ne devineras jamais où. À Verneuil, en Halatte. »
Capucin passait le voir de temps en temps et appelait de chez lui avec son portable, d'où la borne, comprit-elle.
« Abrican vient d'y expédier un autre groupe du GIGN pour le cueillir au réveil avant qu'il se barre. »
Ludivine serra les dents. Il lui en coûtait de ne pas être présente, de ne pas défier cet enfoiré. Les yeux dans les yeux, au moment où il l'arrêterait. Je voudrais le voir, quand ils l'auront. Je voudrais le rencontrer, juste un instant, dit-elle.
Je verrai ce que je peux faire.
Il la toisa et lui fit un signe de tête.
Comment tu te sens?
Interrogea-t-il plus doucement. Elle haussa les épaules. Le casque d'un des hommes du GIGN apparut à une fenêtre du premier étage pour crier
« Chef, venez !»
Il y avait un soupçon de panique dans sa voix. Seignon et Ludivine se précipitèrent dans la maison où était retenu leur unique suspect. Ils gravirent les marches 4 à 4 et foncèrent vers le fond où ils découvrirent un escalier dissimulé dans une armoire. Le système était assez habilement fait, indétectable sans ouvrir le meuble. Le militaire les regardait. La mine défaite.
Qu'est-ce qui se passe? Un problème avec l'interpellé?
Paniqua Seignon. Sa collègue n'attendit pas la réponse et grimpa les marches pentues pour parvenir dans des combles assez obscurs. Son attention fut aussitôt captée par les parapluies d'un système de flash et plus loin par un rouleau de tissu bleu pour créer un fond. Un studio de photographie. N'aie pas peur, dit une voix masculine sur un ton mielleux. Comme si elle s'adressait à une enfant. Ludivine pivota vers l'autre côté des combles. Un des militaires se tenait accroupi et lui tournait le dos. Il avait la main tendue vers un petit lit, entouré de jouets. Et il parlait à une petite fille, recroquevillée derrière un ours en peluche. Elle le fixait, terrorisée.